Là, par exemple, j'ai fait l'entrée à Lisbonne. Et bah, on se dit, ok, j'arrive sur cet énorme bateau. Et en fait, c'est moi aux commandes, quoi. C'est moi qui donne les ordres. Je vous cache pas qu'il y avait un peu d'appréhension au début, mais je me dis, cette appréhension, si elle est pas là, moi je serais un commandant. Je verrais qu'un jeune de 20 ans qui a les commandes d'un PHA est pas un peu impressionné par ça. Je me dis, ok, c'est quoi, c'est un peu une tête brûlée, quoi. Et en fait, c'est assez génial de voir qu'à 23 ans, on peut prendre les commandes d'un PHA, d'une FLF. Là, j'ai des copains qui sont aspect artilleurs et qui ont tiré au canon de sang sur la FLF pendant 5 jours. Et en fait, c'est eux qui donnent les ordres, quoi. C'est eux qui appuient sur le bouton.
Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des experts du secteur. Nous poursuivons notre mini-série exclusive sur la mission Jeanne d'Arc 2022 avec Mathilde, officier élève, pour nous parler de son parcours qui devrait l'amener à devenir pilote Rafale dans l'aéronaval. Elle abordera également la question de l'engagement pour une femme dans la Marine nationale. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour lieutenant, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Bonjour, alors je suis l'enseigne de vaisseau Mathilde. Je suis sur la mission Jeanne d'Arc en tant qu'officier élève. J'ai 23 ans et dans un mois, je pars à Brest comme O4 sur le bâtiment d'expérimentation de guerre des mines. Mon parcours a été assez simple. J'ai fait 3 ans de prépa au lycée naval. Après, j'ai passé le concours de l'école navale. Après 3 ans de scolarité à l'école navale, donc je suis ici sur la mission Jeanne d'Arc. Et ensuite, moi, je vais faire pilote de chasse.
D'accord. C'est quelque chose que vous voulez faire depuis... Très longtemps ?
Oui, très longtemps. J'ai la chance d'avoir des parents marins dans l'aéronaval et beaucoup de membres de ma famille sont également dans l'aviation. Donc, c'est vraiment une petite graine qui a germé depuis toute petite. J'allais dans les meetings aériens à l'âge de 3 ans et j'ai pas arrêté par la suite. Donc ça m'a poussé vraiment vers l'aéronautique et le vrai déclenchement, je pense, c'est les attentats de 2015. Où je me suis dit, ok, j'ai ma passion d'un côté pour les avions, et est-ce que je peux pas rendre ça utile en m'engageant dans les armées ? Bon, j'avais aussi le background de parents militaires qui a bien aidé et qui ont complètement compris mon engagement. Et donc, du coup, ensuite, j'ai postulé en classe prépa, ça s'est bien passé, et voilà.
D'accord. Et pourquoi pas avoir choisi un poste de pilote dans l'armée de l'air ?
Moi, j'ai toujours eu la chance de vivre près de la mer. Donc la mer, c'est quelque chose qui est très important pour moi. J'adore les sports de glisse, j'adore le surf, j'en ai fait plusieurs années, etc. Donc pour moi, la mer, c'est vraiment quelque chose d'important. Et par rapport à l'armée de l'air, ce qu'offre la marine, c'est si je ne suis pas pilote, je peux toujours me reconvertir dans les sous-marins ou sur les bateaux de surface. Et ça, pour moi, c'était hyper intéressant puisque je reste dans l'opérationnel et je ne reste pas basier ou mécan. Donc ça, c'était très intéressant pour moi.
D'accord. Et comment ça se passe concrètement, l'école navale ?
Alors, l'école navale, on arrive. On a un mois d'intégration où ce qui est vraiment bien, c'est qu'en fait, c'est la promotion d'au-dessus qui prend en charge la promotion qui arrive. Et donc, en fait, ils nous inculquent les premières valeurs de la marine qui ont été essentielles tout au long de notre carrière. Ils nous présentent les traditions de l'école navale des officiers. Ces traditions-là, elles sont vieilles elles datent de la création de l'école navale. Donc je trouve ça assez génial de perpétrer des traditions comme ça. On recroise des anciens. Nous, la promotion des bordages de l'année 1960 était venue. On avait exactement les mêmes traditions qu'eux. Donc c'est chouette de pouvoir discuter d'un même sujet avec des personnes qui ont 40, 50 ans de plus, enfin 50 ans de plus que nous. Donc ça se passe, on a une intégration d'abord militaire, ensuite l'école navale, là, ce qu'elle délivre à la fin, c'est aussi un diplôme d'ingénieur. Donc on fait tout un parcours scientifique. Ce qui est super à l'école navale, c'est l'emplacement. Alors il y en a certains qui vont dire que c'est un peu perdu au bout de la France. On dit Brest, mais c'est pas totalement Brest, c'est un peu en face. Il n'y a pas de train ni rien qui arrive, mais en fait, c'est super pratique parce que comme c'est une presqu'île, on est tous ensemble pendant 3 ans et ça crée une cohésion assez incroyable. Enfin, je sais que là, dans ma promo, si j'ai un seul problème, je crois que je peux compter sur tout le monde et il n'y aura pas de souci pour ça. Et Puis vers ça, les gens peuvent compter sur moi et je sais que je me bougerai pour eux. Ça, c'est vraiment chouette. On sent que le groupe, en fait, il se constitue dès le premier mois. Je vous en parlais un peu avec le mois d'intégration. Et cette constitution de groupe, là, cette formation, elle est hyper impressionnante, quoi. De plusieurs fois au cours des années, on fait des périodes un peu d'agrissement où on va un peu nous pousser dans nos limites et tout. Et c'est toujours en groupe. Et on voit en fait que le groupe peut aller super loin. On a des variations. Enfin, il y en a qui sont au top niveau pendant que d'autres sont un peu plus en difficulté. Et au cours du temps, ça s'inverse, etc. Donc c'est des fluctuations de mental. Et en fait, tout ça, ça nous tire vers le haut. Et j'avais vu ça un peu au lycée naval. Et à l'école navale, j'ai pas été déçue, ça a été dupliqué, quoi.
D'accord.
Et ouais. Alors, enfin, moi, j'ai fait. Je peux vous parler un peu de la partie sélection. Moi, je vais faire pilote. Il y en a qui veulent faire commando, il y en a qui veulent faire plongeur des mineurs. Donc ça, c'est des spécialités à sélection. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est à l'école navale, en voulant faire pilote, donc j'ai levé la main. On m'a dit OK. Juste au-dessus de l'école navale, ce qui est chouette aussi, c'est qu'il y a une base en fait sur le site de l'école navale. Donc c'est une base aéronautique, aéronavale, et il y a tout le pôle de formation en fait des jeunes pilotes qui ensuite seront soit pilotes d'hélico ou de chasse dans la marine ou de patmar aussi. Et donc du coup nous on monte, donc je dis monte parce qu'en fait c'est juste au-dessus, on a 6 vols à faire, ceux qui sont FANA pilotes, on a 6 vols à faire sur des petits avions de navigation, c'est des Cirrus SR20, et sur ces 6 vols en fait à chaque fois on va nous demander un peu plus. Et à la fin, nos instructeurs font une commission, ils disent OK, toi, t'as un potentiel, ou alors toi, ça va être compliqué, donc on te propose de te réorienter soit en surface, ou dans les sous-marins, ou ailleurs. Et c'est le même processus de sélection pour les commandos qui ont des tests physiques un peu tout au long de l'année, où ça écrème un peu, et puis il y a des personnes aussi qui se rendent compte que finalement, les commandos, bah, c'est des exigences personnelles aussi qui sont assez énormes. Et. Donc ça, finalement, on arrive à une dizaine de FANA commando à la fin des 3 ans. Et les plongeurs des mineurs, eux aussi, ils ont des tests sur la 3e année. On va y avoir du palmage, etc. Ils sont assez bien entraînés et encadrés sur ça. Donc c'est assez chouette. On a le plan d'eau juste devant l'école navale. Donc ça, c'est top. Il n'y a pas beaucoup, je pense, d'écoles d'ingénieurs qui ont vu sur mer pendant 3 ans. Donc ça, c'est vraiment... Enfin, l'emplacement de l'école navale est relativement génial.
D'accord. Et ce diplôme d'ingénieur, il est valide pour ensuite rentrer dans une boîte. Enfin, il est reconnu par l'État, reconnu par les sociétés.
Il est reconnu par l'État et d'ailleurs, tous les ans ou tous les 2 ans, il y a l'État qui vient justement à l'école navale vérifier que on est bien aux normes pour acquérir ce diplôme d'ingénieur. Et d'ailleurs, il y a dans notre promotion, on avait une dizaine de bidiplômants, c'est-à-dire que c'est des personnes qui après leur prépa ont intégré les arts et métiers ou Centrale Nantes, etc. ou l'ENSTA, et ensuite qui viennent à l'école navale et qui s'engagent comme officier sous contrat. Donc eux, ils ont un contrat de 8 ans. Et ils viennent là, en fait, nous, on a un débit diplômant des arts, oui, c'est ça. Et donc voilà, on a ce cursus ingénieur, et cette voie-là de bidiplômant, elle est assez peu connue, donc c'est bien de la mettre en valeur aussi, parce que quelqu'un qui ne s'y retrouve pas, en fait, dans une école d'ingénieur et qui dit, ouais, les sous-marins, ça pourrait être chouette, par exemple. Bah, il sait qu'il a une place à l'école navale.
D'accord. Parlons un peu de la mission Jeanne d'Arc, puisqu'on est au bout de la... On est presque au bout, on est à quelques jours de l'arrivée. Comment ça s'est passé pour vous?
Alors, la mission Jeanne d'Arc, c'est un peu impressionnant. Pendant 2 ans, on s'y prépare et on se dit, OK, c'est 5 mois qui vont venir achever toute ma formation. Pendant l'école navale, on fait des petites corvettes, c'est des sorties de 2 semaines à la mer sur des bâtiments écoles, donc c'est des bateaux qui sont exclusivement faits pour la formation. Mais quand on voit le PHA et la FLF, on se dit OK, là on triple, on quadruple de taille le bateau, je vais devoir être aux commandes de ça. Donc c'est un peu d'appréhension, mais beaucoup d'excitation, parce qu'on se dit OK, on va faire le tour du monde avec nos copains, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Là, jamais d'avis, j'aurais pensé aller en Inde ou en Afrique du Sud avec mes potes de 23 ans. C'est un truc de fou. Donc, on s'y prépare, ma foi, plutôt bien. Quand on arrive, on a une grosse charge de travail parce qu'à l'école navale, on nous présente le domaine de la navigation, enfin le B.A.B.A. Et ici, on nous présente vraiment ce qui est opérationnel, qu'est-ce que fait la marine dans ces opérations. Donc c'est beaucoup de termes, de notions à apprendre. On voit tous les termes théoriques et ensuite on met ça en pratique via des TP. Donc ça c'est assez chouette parce que on nous présente un scénario, c'est vraiment une mise en situation. On nous dit ok, vous êtes l'équipe rouge, il y a un sous-marin qui va vous attaquer, vous êtes sur tel bateau, vous avez tel moyen. Et en fait on monte petit à petit comme ça en gamme. Alors au début on se trouve super nul, on comprend pas grand chose aux termes, etc. Et il y a beaucoup de documentation à assimiler. Et en fait, on est très aidé par nos profs qui savent que c'est un peu compliqué au début, parce qu'ils étaient là il y a 5-6 ans. Et ensuite, on passe en TP, ça se déroule plus ou moins bien selon les périodes. Ça, c'est plus pour la partie cour. Après, la vie courante, je ne pensais pas que le PHA était aussi confortable. Si ça peut faire peur à certaines personnes d'être embarqué comme ça, 5 mois, loin de sa famille et tout. Le PHA, c'est un bateau qui est fait pour accueillir du monde, donc sur ça, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Et puis, le voyage est assez quand même exceptionnel, quoi. Moi, j'ai fait l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Sud, les Antilles et donc une petite partie d'Europe avec Lisbonne et Toulon en 5 mois avec mes super potes. Enfin, d'un côté personnel et en termes d'expérience humaine, c'est quelque chose qui est très très riche.
5 mois embarqués comme ça sur un bateau, c'est bon. J'ai bien compris que vous étiez, vous voyez vos collègues comme des amis. Et j'imagine qu'on n'est pas amis forcément avec tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas des moments de tension parfois où on est peut-être à deux doigts de péter un câble?
Oui, je vois très bien. Là, comme ça en tête, j'en ai pas parce que mine de rien, on fait des escales tous les 15 jours. Donc 15 jours pour se mettre dans le bain des cours, etc. On a un rythme qui fait court, ensuite on part en quart, donc c'est les fameux TP, les mises en situation. Et entre ces deux périodes, à chaque fois, on a un stop de 3-4 jours en escale. Donc là, où ils appellent ça la régénération. Donc en fait, on sort avec nos copains, on visite la ville. Et comme à bord, on reste souvent avec nos vraiment super potes. Alors je vous avoue, il y a des groupes, etc. dans la promo, forcément, comme partout. Mais il n'y a pas vraiment de gros moments de baisse de morale. À la limite, peut-être en mi-mission, lorsqu'on a appris nos affectations, nos spécialités. Donc à mi-mission, on nous dit « Ok, vous serez dans les sous-marins, vous aurez tel poste, vous serez en surface, vous êtes sélectionné dans la filière pilote ou pas. » Et donc là, on est excité. Et en fait, après, il y a une baisse un peu de motivation en attendant les affectations. Et voilà. Mais sinon, il n'y a jamais eu d'embrouille, en tout cas, au sein de la promo. Et je n'ai pas entendu parler d'embrouille particulière sur les promos précédentes, par exemple. Enfin, ce n'est pas juste propre à notre promo de tout s'entendre bien ou pour la majorité, mais non. Enfin, ce groupe est relativement soudé, en fait.
D'accord. Bah, tant mieux.
Oui, tant mieux, ouais, carrément.
Et les affectations se font pas à la fin, à l'issue de l'expédition? Ça se fait vraiment au milieu?
Alors, ça se fait pas au milieu. Donc, il y a les sélections, enfin, les SP, on appelle ça les SP, qui sont données vraiment à mi-mission. Nous, ça a été donné en Afrique du Sud, au Cap. On était vraiment pile poil au milieu de la mission. Et ensuite, les bateaux sur lesquels on va partir pour les premières années sont donnés un mois avant la fin. Donc nous, on l'a su en Martinique, à Fort-de-France. Et en fait, entre les SP et l'affectation, il y a un peu cette question, ok, on a eu ce qu'on voulait, mais où est-ce qu'on va aller l'année prochaine? Et c'est un peu de l'attente, un peu de la... Ouais, c'était... Faut gérer un peu son excitation, son appréhension, et puis sa hâte de savoir ce qu'on va faire l'année prochaine. Parce que des fois, ça peut être un peu pesant d'être là, sur le bateau, et de rien pouvoir organiser... On est un peu coupé du monde. C'est toutes les news là, qui sont tombées en France. C'est drôle, mais moi, j'ai appris l'élection présidentielle. J'étais sur un quart de nuit. J'étais en train de regarder. J'étais en exercice lutte anti-aérienne. Et là, il y a quelqu'un qui vient me dire « Bon, bah, ok, c'est le président Macron qui est réélu. » Je fais « Ok, bon, très bien. » Je me rends concentre sur mon exercice. Bon, on n'est pas du tout dans la vie dans laquelle on était il y a 5 mois, quoi. Donc d'un côté, ça nous préserve un peu et ça permet de rester un peu intouchable des mauvaises comme bonnes nouvelles, des fois. Mais du coup, des fois, on arrive un peu largué, on ne sait pas trop ce qui se passe.
Bon. Et le fait d'être coupé du monde et d'être loin de sa famille, de ses proches, c'est pas compliqué?
À bord, on a des téléphones, on a un service mail, donc ça fonctionne très bien. Moi, ma famille m'a pas tant manqué que ça, parce qu'en fait, le lien était constant. Je pouvais toujours avoir des nouvelles d'eux. Mais là, je les ai revus à Lisbonne, j'étais super excitée de les revoir. Et c'est chouette, en fait, de se dire, ok, je pars 3, 4 mois, 5 mois. Et tout ce que je vais vivre après, je peux essayer de le partager à mes proches. Moi, ma maman, elle comprend très bien ce que je peux vivre. Et mes petits frères et mes petites sœurs, ils me regardent avec des grands yeux. Là, ils étaient à Lisbonne, ils sont venus sur le PHA. On a fait un cocktail sur le PHA. Enfin, c'est hyper chouette de pouvoir leur montrer ce que je fais et de voir... Ouais, ils comprennent vraiment ce que je fais, quoi. Et ils sont très impressionnés. Moi, c'est mon quotidien. Et je me dis, ok, en fait, ce que je fais, c'est vraiment un truc de fou, quoi. Et des fois, on l'oublie un peu, mais c'est comme les pilotes de chasse. Moi, je les regarde avec des yeux d'admiration complète. Et ça se trouve, eux, ils se lèvent le matin, ils se disent, bon, bah, allez, vol numéro 51, j'y vais. Et puis, ils se mettent dans leur rafale, ils mettent la post-combustion, et c'est bon. Et ça se trouve, ils se rendent pas compte à quel point c'est magnifique ce qu'ils font, quoi. Et puis, voilà.
Du coup, pour la partie pilote de chasse, c'est quoi qui vous attend maintenant comme type de formation?
Alors, la formation pilote de chasse, elle est connue pour être assez longue. Et ce qui est compliqué, c'est qu'il y a beaucoup d'échéances où on peut se faire éjecter du cursus. Donc là, moi, ce qui m'attend, je pars un an du coup en surface pour obtenir mon brevet chef du car. En gros, c'est être pilote du petit bateau. Enfin, je vais conduire le bateau en prenant en charge. Le côté opérationnel, les exigences de mon commandant, etc. Donc ça, c'est un an pour tout le monde, au minimum. Et ensuite, donc je fais une quinzaine de vols dans un an à l'AIP 50S, donc à l'Envéoc, juste au-dessus de l'école navale. Là, à la fin, on va me dire, très bien, vous pouvez continuer le cursus Avia, ou alors non, on vous remet en surface ou en sous-marin. Et ensuite, moi, je désire faire pilote de chasse. Pour pilote de chasse, il y a deux voies. Soit je pars en ce qu'ils appellent le full US. Donc là, je vais faire 2 ans aux États-Unis où je vais apprendre à piloter sur des petits jets, des avions de chasse. Je vais passer à la qualification à pontage sur les porte-avions américains. Ou alors la formation mi-France, mi-États-Unis, où je pars d'abord dans le sud avec mes camarades qui feront également Patmar. Je pars à Salon de Provence et ensuite Cognac, et ensuite on m'envoie aux États-Unis rejoindre ceux qui étaient partis en cursus full US. Pour les hélicos, ils partent à Dax, un peu plus court. Tout le monde passe par cette EIP 50S là au début. Et les Patmar, ceux qui souhaitent Atlantique 2 ou Falcon 50, eux ils font tout un circuit en France. Et là, c'est en gros, il faut compter 4-5 ans de formation. Et ensuite, en unité, pour les chasseurs, c'est pas gagné non plus. Ils reviennent, il faut qu'ils se remettent dans la doc française puisqu'ils ont mangé de la doc américaine pendant 2 ans, 3 ans. Et puis après, il faut se former sur le Rafale, qui est une machine hyper complexe qui évolue tout le temps. Nous, à l'école navale, on avait on appelle ça un Lufia, c'est un 3-gallons qui, pendant 2 ans, va être responsable de notre escouade, qui est pilote de chasse. Et il nous a dit, en fait, en l'espace d'un été, je sais que je suis plus à jour sur le Rafale. Ça évolue tellement vite que c'est ça aussi qui fait la spécificité et la beauté du métier, c'est qu'en fait, on est toujours obligé de se remettre en question, toujours obligé d'apprendre de nouvelles choses. Et ça, je trouve ça assez super de pouvoir se dire, ok, je suis partie du zéro. Et petit à petit, tout au long de ma vie, je vais évoluer en essayant d'atteindre le top niveau, quoi. C'est assez chouette.
J'imagine que tous les films qui sont sortis, notamment Top Gun récemment, ça vous fait rêver, quoi.
Ça fait rêver. J'ai pas pu attendre d'arriver en Martinique pour le voir en français. J'ai vu au Brésil, en anglais, sous-titré portugais. et ouais, on est allé le voir avec plusieurs copains qui veulent faire pilote de chasse ou pilote d'hélico. Mais ça fait toujours rêver. Là, les plans sont incroyables. Moi, j'ai été biberonnée au Top Gun 1. Ça fait rêver. Alors malheureusement, ces films-là montrent pas forcément l'exigence que c'est d'être... Il y a un énorme impact sur la vie personnelle derrière. La vie de militaire, elle est assez spécifique, je trouve, pour ça. C'est qu'on peut pas rentrer à la maison, enlever ses chaussures et se dire « Ok, maintenant, je suis plus militaire. Mon boulot, je le reprends demain à 8h. » C'est impossible de se dire ça, c'est toujours de la conciliation vie personnelle, vie professionnelle. Alors, d'un côté, c'est chouette parce qu'il n'y a jamais de routine. Et d'un autre côté, faut construire sa famille en sachant qu'il y aura des sacrifices à faire ou il y a des moments où on ne sera pas là alors qu'on aurait souhaité être là. Moi, mon papa, il n'a pas été là pour la naissance de ma petite sœur. Bon, c'est comme ça, quoi. Il faut l'accepter. C'est difficile de se projeter quand on passe les concours. On nous dit, OK, dans 10 ans, comment vous vous voyez? Est-ce que vous souhaitez être maman? Enfin, moi, on m'a demandé est-ce que vous voulez être maman à l'âge de 18 ans. Moi, juste une envie, c'est être dans des avions et faire des missions. Et donc, c'est un peu difficile. On essaye de nous présenter ça à l'école navale en nous faisant échanger avec plein de personnes différentes, que ce soit des officiers mariniers ou des officiers. Mais c'est vraiment quelque chose aussi qui nous est propre. Il faut absolument réfléchir sur ça. On ne peut pas s'engager en se disant OK, moi je vais aller dans les sous-marins. Mais ne pas prendre en compte la vie à côté perso, c'est. On va se prendre un mur forcément à un moment.
Du coup, vous avez dit que la vie de famille, ce serait cette façon-là et.
Ben, moi, je me suis dit, j'ai vu que mes parents, ça avait plutôt bien fonctionné. Enfin, moi, j'ai pas été traumatisée de ça. J'ai trouvé que mes parents, ils s'éclataient dans leur métier. Et donc, ça s'est ressenti dans ma famille. Enfin, moi, j'ai vécu une enfance super heureuse. J'ai déménagé plusieurs fois, du coup, j'ai plein de potes partout. C'est pratique. Mais je sais que ouais, ça sera pas facile. Mon papa, il vivait pas au même endroit que ma maman. Donc c'était, je le voyais les week-ends. Ma maman, le soir, elle partait, elle me disait, bon, je reviens dans 2 jours parce que je suis de garde, et puis je peux pas être là. Et en fait, on comprend, en tant qu'enfant, on se dit, ok, c'est la norme, et donc c'est pas si impactant pour ça. Quand on grandit, on comprend que, ouais, ils ont dû faire des sacrifices, et pour nous, c'était pas très difficile, je pense que c'était plutôt pour eux, de se dire, ok, là, je pars un mois en mission, je vais pas voir mes enfants. Nous, on se dit, ok, bon, ouais. Il part en mission, on fait sa petite vie, on a 5 ans, là on comprend rien. Mais ouais, je sais que je serai assez attentive à ça, mais d'un autre côté, j'ai mon rêve de devenir pilote de chasse, d'apponter sur le porte-avions, de faire de la lutte anti-aérienne. Donc, va falloir concilier tout ça. J'ai 10 ans là devant moi, je pense que ça va être 10 années qui vont être super riches, mais aussi qui vont être compliquées, tant sur. L'aspect pro que l'aspect perso.
Qu'est-ce que vous pensez il y a beaucoup, d'officiers femmes qui veulent devenir pilotes?
Alors, nous, on doit être 16 personnes dans la promo à vouloir devenir pilote. On est deux à souhaiter devenir pilote de chasse, une pilote d'hélico. Il y a déjà des femmes qui ont passé le cursus pilote de chasse, mais qui n'ont pas été brevetées. C'est-à-dire qu'elles ont passé ces plusieurs étapes, elles sont passées par les États-Unis, etc. Mais le bout du bout, elles n'ont pas réussi à l'atteindre. Donc c'est un challenge de plus pour moi de me dire, OK, pour l'instant, il n'y a pas de femmes pilotes de chasse dans la marine.
Ah bon? Il n'y en a
Non,
pas du tout.
il n'y en a pas du tout. Dans l'armée de l'air, il y en a 4, il me semble, mais c'est loin d'être la majorité du coup. Et donc c'est un challenge un peu, en échangeant avec des personnes qui sont en flottille, donc tous des garçons, ils me disent, écoutez, nous on n'attend qu'une seule chose, c'est des pilotes, des personnes motivées, des personnes qui sont compétentes. Et ça, on nous le rabâche. Tant qu'on est compétent et qu'on sait ce qu'on veut et qu'on donne des ordres clairs, on ne remettra jamais en cause en fait notre autorité ou notre capacité à pouvoir faire ce métier-là. Mais bon, il y a des fois certains petits problèmes tels que la maternité, forcément le sujet il arrive tout le temps. Je me dis que bon, les garçons forcément ils ont leur rôle à jouer aussi dans la création d'une famille et puis l'entretien de cette famille quoi. Les mamans elles sont pas les seules à prendre en charge les familles, mais ouais, c'est des questions qui sont toujours un peu dans le flou quand on est jeune et qu'on n'a pas de famille et qu'on veut juste foncer et qu'on a des rêves plein la tête. J'attends de voir un peu, je vous avoue, j'ai pas les idées très claires sur ça. Je sais que je veux m'éclater dans ma vie pro. Et pour l'instant, j'ai pas trop de référentiel, du coup, femme pilote de chasse. Pilote Patmar et pilote hélico, il y en a une. Là, l'actuel commandant de la base aéronavale de Lanvéoc, c'est une pilote d'hélicoptère. Et en échangeant avec elle, elle nous a vraiment dit ok, dans la vie, en fait, vous avez vos cursus, là, vous avez votre cursus vie perso, votre cursus vie pro, et en fait, vous jouez en permanence avec. Vous dites ok, là, en ce moment, j'ai besoin de mettre davantage ma vie perso à l'abri, enfin en avant. Il faut que je prenne soin de ma famille. Ok, bah, dans ce cas-là, on fait ce qu'il faut, on demande des affectations particulières, etc., pour être un peu au repos et pouvoir gérer sa famille. Et puis l'année d'après, 2 ans après, on se dit ok, maintenant j'ai envie de m'éclater dans mon boulot, de faire des trucs un peu touchy. Bah, je vais demander telle chose à ma RH. Et pour le coup, la Marine est assez consciente elle prend vraiment en compte nos envies, parce qu'elle part du principe que si les marins sont pas heureux, s'ils sont pas bien dans leur boulot, derrière, en opération, ça sera compliqué, quoi. Donc ils sont assez à l'écoute sur ça.
D'accord. Et sur cette mission, sur la mission Jeanne d'Arc, vous êtes pas mal de femmes, parce que j'ai cru comprendre que le Mistral était même un des bâtiments de la marine les plus féminisés au final. En termes de pourcentage, c'est comment vous qualifieriez, ou c'est quoi votre regard sur les relations hommes-femmes à bord?
Alors, j'ai un copain qui dit moi, quand je suis en service, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'hommes, il n'y a que des marins. Je trouve ça assez vrai, parce qu'en fait, je ne vais pas dire que je ne remarque pas quand c'est un homme ou une femme qui fait le boulot, mais on est tous dans la même tenue, on fait tous la même tâche qui nous est donnée. Donc les relations sont parfois très simples, enfin, il n'y a pas de problème par rapport à ça. J'ai jamais été mise en défaut, ou on m'a jamais dit je sais pas, t'es une femme, donc on va plutôt laisser ça à un gars de ta promo. Bah non, ça, je trouve ça assez chouette, et c'est ce qui me protège assez peut-être de tout ce qui est problème de misogynie ou quoi que ce soit, ou tout ce que la société en ce moment est en train de combattre. Bah, moi, je suis de tout cœur avec ça, mais ici, ça se ressent pas trop. Je sais qu'il faut faire ma place, mais j'ai pas à faire ma place parce que je suis une femme et que je dois vraiment montrer aux hommes que je le vaux, quoi. Je sais qu'il faut juste que je sois compétente, et ça fera le taf.
Ça parle de féminisme dans les rangs de la marine?
Est-ce que ça parle de féminisme? Je discute pas trop de ça avec mes amis. Je vous avoue que des militaires entre eux parlent relativement souvent de leur mission et de leur vie de militaire. Mais moi, le féminisme, par exemple, ma petite sœur, elle n'est pas du tout dans le milieu militaire. Elle est très attachée à ça. Et donc, du coup, je peux que la soutenir et que écouter ce qui se passe. Moi, à partir du moment, en fait, où on me respecte parce que je fais bien le taf, et qu'on ne met pas en défaut parce que je suis une fille et qu'à côté de moi, je suis entourée de garçons, ça me va et c'est tout ce que je demande. Et par contre, je ne supporterai pas que chez mes hommes, plus tard, quand je serai vraiment responsable d'un service, etc., qu'il y ait ce clivage entre filles-garçons, parce que d'un côté, j'ai les filles qui sont peut-être moins fortes ou qui valent moins bien que les garçons, quoi. Et ça, la marine le protège assez bien. Du moins, en fait, on peut vite tirer la sonnette d'alarme et on est écouté s'il y a un problème de ce côté-là. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai jamais entendu parler. Enfin, j'ai jamais eu de problème.
Sur la mission, sur cette mission Jeanne d'Arc, vous avez des périodes de cours, des périodes de mise en situation. Vous avez déjà fait plusieurs quarts, du coup, je suppose, depuis le début.
Oui.
Comment ça se passe? Comment on se sent la première fois
La première fois qu'on monte en passerelle du PHA, déjà la passerelle est énorme par rapport au petit bâtiment sur lequel on a l'habitude de naviguer à l'école navale. Donc on se dit ok, donc là il y a plein de systèmes, il va falloir que je maîtrise tout ça. En amont, on a de la documentation, ça s'appelle l'IPMR, donc c'est en gros le commandant qui pose ses ordres pour son équipage, qui dit ok, la navigation, je veux qu'elle se passe comme ça, vous avez tels outils à votre disposition, je veux que vous les utilisiez comme ça. Donc il y a un cadre, et là par exemple, j'ai fait l'entrée à Lisbonne, et on se dit ok, j'arrive sur cet énorme bateau, et en fait c'est moi aux commandes, quoi, c'est moi qui donne les ordres. Je vous cache pas qu'il y avait un peu d'appréhension au début, mais je me dis, cette appréhension, si elle est pas là, moi, je serais un commandant, Je verrais qu'un jeune de 20 ans qui a les commandes d'un PHA est pas un peu impressionné par ça, je me dis, ok, c'est quoi ce... C'est un peu une tête brûlée, quoi. Et en fait, c'est assez génial de voir qu'à 23 ans, on peut prendre les commandes d'un PHA, d'une FLF. Là, j'ai des copains qui sont aspect artilleur et qui ont tiré au canon de sang sur la FLF pendant 5 jours. Et en fait, c'est eux qui appuient, enfin, c'est eux qui donnent les ordres, quoi. C'est eux qui appuient sur le bouton. Donc ça, c'est en passerelle. Ça, c'est assez top. Quand on fait pareil, on fait des évolutions très rapprochées entre PHA et FLF, où on fait, ça s'appelle des pré-rames, donc des présentations au ravitaillement à la mer, donc où les bateaux doivent être à 40 mètres l'un de l'autre. Quand on voit cet énorme PHA et qu'on est sur la FLF, on se dit wow, « Waouh, mais c'est moi qui donne les ordres, quoi. Si je donne un ordre mauvais, et bah, derrière, les instructeurs vont peut-être me reprendre, mais en tout cas, c'est moi qui suis aux manettes, quoi. » Et d'un autre côté, donc là, on fait du quart passerelle, on fait du quart OQO, donc ça, c'est au central opération. Là, depuis, enfin, on gère les opérations, la lutte, tous les TP en fait, de mise en situation, ils se passent là-bas. Là, c'est vraiment on découvre ça quand on arrive sur la mission Jeanne d'Arc. On n'a jamais fait ça avant à l'école navale. Parce qu'ils mettent vraiment l'accent en fait, sur la navigation à l'école navale. Et ici, on découvre tout ce domaine opérationnel. Là aussi, c'est top parce que on voit la navigation à l'école navale et ici, on se dit, ok, en fait, on peut faire plein de choses. La marine a fait plein de choses. Et on le savait, mais on n'avait jamais touché du doigt ce que faisaient les marins, quoi. Et quand on tire des torpilles sur des faux sous-marins ou quand on tire des missiles, que nos instructeurs nous mettent un peu la pression et tout, bah, on trouve ça chouette parce que c'est des choses qu'on ferait jamais ailleurs. Et même quand on parle avec nos copains, ils se disent « Attends, mais toi, tu tires des torpilles, tu conduis un énorme truc comme ça, mais c'est génial, quoi. » Et je fais tout ça en faisant le tour du monde. Donc je trouve ça assez génial.
Et en étant payé.
Et en étant payé, en étant nourri, logé, En fait, on a passé des grands oraux là, récemment, où c'était un bilan de la mission Jeanne d'Arc. Et ils nous ont demandé qu'est-ce que vous avez retenu de la mission Jeanne d'Arc? Et moi, ce que je leur ai dit, c'est que je m'estimais extrêmement chanceuse d'être française et d'être dans la marine française, parce qu'en fait, avec ce petit tour du monde, cette toute petite fenêtre d'observation que j'ai eue sur le monde, en fait, je me rends compte que j'ai plein d'avantages. La France, elle est super riche, que ce soit de culture, d'histoire, en nourriture, en protection, enfin, elle nous offre tellement. Que ouais, je suis hyper fière d'être française et ce que renvoie la France aussi à l'étranger, c'est une grande nation, c'est une nation forte. C'est vraiment ça que j'ai retenu de ma jeune, la fierté d'être française.
Bah c'est une belle conclusion, mais avant, j'ai une dernière question que je pose à tout le monde, c'est quel est le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui aimerait se lancer là-dedans, qui aimerait devenir officier dans la Marine nationale?
De foncer. On passe par des étapes pas forcément très agréables. La prépa, moi, c'est un super souvenir parce que c'était une expérience humaine folle, mais c'est vrai que c'est pas forcément toujours très marrant de devoir se coucher à 23h et ça pendant 2 ans, 3 ans. Mais de foncer parce que c'est juste génial de connaître cette ambiance de groupe, de pouvoir voyager ensemble. Cette ambiance de groupe, aucun de mes amis qui sont dans le civil la connaissent, de pouvoir compter sur absolument tout le monde dans sa promo de 150, 160 personnes, sans avoir de doute sur ça. C'est une expérience humaine plus que professionnelle, je dirais, de servir comme ça. Et en tant qu'officier particulièrement, parce qu'en fait, on va être amené à commander des hommes, à gérer des personnes qui ont leur vie, quoi, et on va devoir prendre tout ça en compte et gérer toutes ces personnes-là pour réussir une mission. Je trouve ça. J'ai hâte de passer les 10, 20 ans qui arrivent et de me retourner et de me dire, ok, j'ai fait tout ça, je suis partie d'un état zéro à ce que je suis maintenant. J'espère que tout se passera bien. Je dirais vraiment à cette personne-là de foncer parce que. C'est juste génial, c'est hyper enrichissant et jamais elle fera ce qu'on fait ailleurs.
Super. Ben, merci pour cet échange et bonne fin de mission du coup.
Merci.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à écouter les autres et à parler de ce podcast autour de vous. Pour info, nous avons consacré le dossier du dernier numéro de notre magazine papier, le numéro 8, à la mission Jeanne d'Arc, et vous y retrouverez notamment des photos exclusives de la mission réalisées sur place. Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.